Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de talk show. Aujourd'hui, on va revenir aux années 30 avec un documentaire qui sera diffusé ce dimanche 28 mai à 22h50 sur France 5 dans le cadre de la Casse du siècle. Léon Lévis qui va vaincre les nazis à Hollywood. Ce film est réalisé par Olivier Mirguet et également par Bruno Milo. Bonjour Olivier Mirguet.
L'Archipel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avant de parler de votre documentaire et de Léon Lévis, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter à nos auditeurs?
Alors, je suis réalisateur de documentaires, je suis à la fois photographe et dessinateur. Voilà, j'habite à Paris et j'ai vécu pendant plusieurs années à Los Angeles, là où j'ai justement découvert cette histoire, l'histoire de Léon Lévis, cet avocat juif qui se bat contre les nazis à Hollywood. Donc Los Angeles, une ville que je connais très bien.
D'accord. Justement, comment vous êtes tombé sur cette histoire? C'est quelque chose que vous avez lu, dont on vous a parlé? Parce que cette histoire-là, en vrai, je la connaissais pas avant de voir votre documentaire. Comment vous êtes arrivé à trouver cette histoire?
Bah, c'est vrai que c'est une histoire très peu connue, même des Américains eux-mêmes. Et à Los Angeles, je connais un historien qui s'appelle Steve Roth, qui a redécouvert, donc il y a quelques années, les archives de Léon Lévis, qui étaient complètement tombées dans l'oubli. Et effectivement, c'est une figure qui a passé le temps et qui était complètement oubliée. Et Steve Roth a mis au jour ses archives qui étaient consignées dans une université au nord de Los Angeles, à Northridge. Et donc, il a commencé à éplucher les archives de Léon Lévis qui consistent en des rapports dactylographiés écrit à la main des espions de Léon Lévis.
Ah, alors avant de tout raconter, on va revenir au départ. Quand vous présentez donc Léon Lévis, qui est en fait le personnage principal de votre documentaire, en fait c'est un avocat juif qui est avocat de la Ligue de Défense aux États-Unis. Et ça fait quelques années qu'il traque en fait les personnes qui sont, on va dire, antisémites, c'est comme ça qu'on peut dire.
Exactement, en fait, il était secrétaire national de l'ADL, qui est l'American Defamation League, qui est basé, qui est un organisme national américain et qui est effectivement chargé de traquer toutes les dérives antisémites dans les publications, dans les films, etc. Donc c'est déjà quelqu'un qui a l'habitude d'être alerté sur les dangers que peuvent représenter l'antisémitisme aux États-Unis. Il travaille à Chicago et puis, pour des raisons de santé, il se rend à Los Angeles au début des années 30 et là, il se rend compte que la ville est de plus en plus gangrénée à partir de 1933 par des groupuscules fascistes et nazis. Et qu'un jour, il découvre sur Broadway Avenue, qui est l'avenue la plus importante de Los Angeles, parce qu'à l'époque, les cinémas sont dans cette avenue, il découvre les croix gammées qui flottent sur Broadway Avenue à côté des drapeaux américains. Et là, il décide d'agir.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Léon Lévis, évidemment, connaissait bien avant tous les courants antisémites, mais quand il découvre, on va dire, l'étoile nazie, en tout cas le logo nazi, il a très très peur, encore plus que tout ce qu'il a vu avant. Il sent vraiment le danger.
Exactement, et étonnamment, c'est le seul à voir le danger. Parce qu'il tente d'alerter les autorités locales, le LAPD, qui est la police de Los Angeles, il tente d'alerter le FBI, et personne ne l'écoute, parce que à cette époque, bien sûr, la menace, elle n'est pas nazie, elle est communiste, et donc, pour les autorités américaines, voilà, il n'y a pas de danger. Les nazis, en tout cas, ne représentent pas de danger. Il faut se souvenir aussi que dans les années 30, on est évidemment en pleine dépression, et le pays est largement antisémite.
D'accord.
Il y a des quotas, les États-Unis, dans les universités. Comment ?
Les États-Unis sont antisémites en 29.
Oui, bien sûr. Bah oui, il y a un large sentiment antisémite dans le film. Je parle du pasteur Coughlin, qui est un prédicateur et qui a une émission hebdomadaire écoutée par des millions et des millions d'auditeurs. Il y a des quotas, juifs pour entrer dans les grandes universités du pays. Les clubs sont interdits aux juifs. Enfin, ouais, vraiment, il y a un grand sentiment antisémite. C'est justement sur cette sur ça que les groupuscules fascistes prospèrent, en fait, sur cet antisémitisme latent qui est très présent aux États-Unis au début des années 30.
Alors, ce qui inquiète également beaucoup Léon Lewis, c'est, on va dire, l'implication des nazis dans tout ce qui est cinéma, dans l'industrie du film en l'occurrence, qui flirte, on va dire, avec des films de propagande. Et là, c'est la deuxième partie de votre documentaire. Là, Léon Lewis a très peur.
Oui, bien sûr, parce que Léon Lewis se rend compte que, en fait, les nazis ont non seulement infiltré tous les groupes d'extrême droite fasciste américains en essayant d'installer le national-socialisme, mais aussi ils infiltrent tous les grands studios de cinéma. C'est-à-dire que, et ça, les patrons des grands studios qui sont tous juifs, hein, il faut le rappeler, à l'exception de Zanuck de la 20th Century Fox. En fait, ils ne se rendent pas compte que qu'à l'échelle, en fait, des ouvriers, des décorateurs, etc., les juifs sont peu à peu évincés des studios. Donc, il y a de moins en moins de juifs qui travaillent dans les studios, et surtout, Hitler envoie à ce moment-là un émissaire à Los Angeles qui s'appelle Georg Gisling, qui est chargé justement de faire pression sur les studios pour qu'il n'y ait aucun film qui donne une mauvaise image de l'Allemagne et encore moins des nazis.
Allez-y, je vous écoute.
Non, j'allais finir. Ce qui est important de comprendre, c'est que donc Gisling, l'ambassadeur allemand, arrive à ses fins, à faire pression sur les studios et à enlever certaines, à faire même interdire certains films, parce qu'évidemment, les studios ont tout intérêt à garder le marché allemand, qui est le plus grand marché européen à Hollywood d'exportation des films. Donc en fait, ils accèdent aux demandes de Georg Gisling de couper certaines scènes, de ne pas faire référence aux nazis. Voilà. Et donc il y a une censure comme ça qui s'opère à Hollywood, sous pression des nazis directement.
Alors, ce qui est très intéressant dans votre documentaire concernant Léon Lewis, c'est que Léon Lewis met tout dans cette lutte, son travail, sa fortune, il lâche tout et il s'occupe uniquement de ça. Pour lui, c'était la mission de sa vie.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de lui. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs un problème au départ pour construire le film, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments sur sa vie personnelle, sur ses motivations. Parce que tout ce qu'il a laissé, c'est uniquement ses rapports, les rapports de ses espions. Et donc, on a très très peu de choses sur lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui n'a jamais voulu apparaître au grand jour. Et même quand les réseaux nazis ont été démantelés, une fois que Pearl Harbor, le drame de Pearl Harbor arrive, le FBI et les autorités américaines reconnaissent tout le travail que Léon Lewis a pu faire, mais lui ne veut surtout pas se mettre en avant. Il n'a jamais voulu tirer gloire de ses actions et du fait qu'il ait effectivement laissé pendant 6 ans son activité d'avocat pour se consacrer exclusivement à la lutte contre les nazis. Donc c'était quelqu'un de très secret, sans doute de très impliqué, quelqu'un qui croyait beaucoup en la démocratie et qui pour moi résonne vraiment aujourd'hui de façon incroyable, parce que c'était un lanceur d'alerte avant l'heure. Et à un moment, il se rend compte que voilà, la démocratie, les États-Unis, sa démocratie peut basculer dans le fascisme, dans le nazisme et dans la dictature.
Comment on peut comprendre que c'est l'un des rares aux États-Unis qui a essayé de faire cette chasse aux nazis, parce qu'apparemment, au départ, il était un peu tout seul?
Oui, alors il y a eu d'autres actions côte est. Moi, je me suis vraiment focalisé sur la côte ouest et l'histoire de Léon Lewis. Mais il y a quelques agents du FBI qui eux aussi étaient bien seuls côte est à essayer de lutter contre la menace nazie. Mais voilà, là, ça se passe surtout en Californie parce que la Californie était l'endroit idéal finalement pour commencer à mener une rébellion de grande ampleur parce que c'était un État où il y avait beaucoup d'extrémisme, de fascisme déjà sur place, un antisémitisme fort et un conservatisme qui permettait à ces idées de prospérer. Et Los Angeles est aussi une ville beaucoup moins surveillée que New York. Donc c'est pour cette raison-là que les nazis ont tenté d'infiltrer Hollywood et Los Angeles.
Mais même au niveau de l'État américain, on a l'impression que le Congrès est pas très, enfin, on va dire, n'est pas très empressé de s'occuper des nazis.
Oui, bien sûr, puisqu'il y a, voilà, il y a Léon Lewis fait appel à Dick Stein, qui est un homme politique, qui lui aussi décide d'alerter le Congrès. Donc il y a des auditions qui sont menées, et effectivement, il faut attendre 1937, 1938, c'est quand même très très tard, hein, très très tard, pour que le gouvernement américain prenne conscience que voilà, les nazis peuvent représenter une menace pour la sécurité intérieure.
Olivier Mirguet, on va faire une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, d'argent ou sans un sou, mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, 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 je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau on chante sans fin la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve.
Dimanche 28 mai, 22h50 sur France 5, dans le cadre de la Case du siècle, le documentaire sur France 5, donc Léon Lewis qui a vaincu les nazis à Hollywood, un film réalisé par Olivier Mirguet et Bruno Massy. Olivier Mirguet, vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Ce qui est très intéressant, c'est également l'illustration de cette histoire. D'abord, vous nous l'avez dit en première partie d'émission, il y a très peu d'images, de photos de Léon Lewis. Comment on fait pour trouver au niveau visuel des photos ou des images? Et vous avez décidé de dessiner.
Ah, justement, oui, ça a été très compliqué. C'est-à-dire, quand on a commencé à décider de monter le documentaire, on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas d'archives. Donc pour faire un documentaire, il y a deux façons, c'est-à-dire soit effectivement on a des archives, on fait des interviews qui sont filmées, mais moi je voulais en fait rester dans cette ambiance des années 30 de Los Angeles. Et donc pour pallier à ce manque d'archives du réseau de Léon Lewis, puisqu'en fait ils n'ont laissé que des traces manuscrites, il n'y a pas de photos, il n'y a rien, et ben en fait j'ai décidé de dessiner. Je dessine depuis toujours, mais c'est la première fois que je dessine dans le cadre professionnel. Et donc j'ai commencé à faire des animations avec Yann Mallard qui fait de l'animation 3D. Et c'est aussi grâce à ces animations qu'on a réussi à séduire France 5 pour ce projet.
C'est le manque d'illustration ou c'est aussi une envie de raconter des histoires autrement?
C'est le manque d'illustration qui a conduit effectivement à vouloir raconter des choses autrement et de se poser la question de comment les raconter. Parce que généralement, l'illustration dans les documentaires qui est de plus en plus utilisée arrive, c'est-à-dire en appoint d'archives, etc. Mais là, ça vraiment, pour moi, c'était important parce que ça prenait toute cette partie d'illustration du réseau de Léon Lewis qui n'existait pas et qui permettait de le faire exister surtout. Et de retrouver un peu cette ambiance des films noirs, moi, que j'adore et dont je me suis beaucoup inspiré pour faire les dessins et qui ont ensuite été animés.
Il y a aussi une deuxième base, c'est un film justement sur cette histoire où vous prenez des extraits de ce film-là. C'est pratiquement le seul film qui parle de cette histoire.
Oui, bien sûr. Devant ce manque d'archives auquel on faisait face, on a commencé à essayer de piocher dans les films américains de cette époque-là. On est tombé sur ce film qui s'appelle Confessions of a Nazi Spy d'Anatole Litva, qui est de 1939, qui est réellement le premier film anti-nazi et qui raconte l'histoire d'infiltration nazie à grande échelle des États-Unis. Et donc, effectivement, on s'est servi de ce film comme point d'appui pour illustrer aussi, pour illustrer le film et les actions du réseau. Et par exemple, on a mis des extraits de Goebbels qui tient un discours très anti-américain sur la façon dont il faut infiltrer les États-Unis, qui sont sans doute assez proches de la réalité, à mon avis, parce que Goebbels, effectivement, avait une attirance pour Hollywood et savait très bien que Hollywood représentait un lieu très 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 important pour faire passer la propagande nazie et essayer de rallier les Américains à sa cause, ou alors en tout cas ne pas s'occuper des affaires de l'Europe et que l'Amérique reste très isolationniste.
La majorité des studios américains ont été ôtés. En tout cas, géré ou dirigé par des juifs. Comment ça se fait qu'ils n'ont rien vu?
En fait, si, ils ont vu. C'est-à-dire qu'ils étaient présentés, par considération économique. C'est-à-dire qu'encore une fois, il était compliqué pour les studios de se couper, de prendre des risques, de se couper du marché allemand, qui était le plus important d'Europe. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils ont accédé aux demandes des nazis de couper certains films, de ne pas faire allusion claire au nazisme, etc. Mais il faut savoir qu'ils étaient aussi très partagés, parce que en fait, à aucun moment, en tout cas les patrons juifs des studios ne voulaient mettre en avant leur judaïté pour ne pas apparaître comme fauteurs de troubles ou appelés à la guerre. En tout cas, donc c'était une position très compliquée, mais en privé, effectivement, ils étaient très, très, très inquiets de ce qui se passait. Et c'est pour cette raison-là qu'ils acceptent à un moment de financer le réseau de Léon Lewis, qui fait appel au patron des studios parce qu'il est effectivement en manque d'argent. Il n'a plus aucun moyen de payer ses informateurs et ses espions. Et donc, les studios, effectivement, financent à un moment le réseau de Léon Lewis. Tout ça en grand secret, évidemment.
Alors, on vous conseille évidemment de voir le documentaire pour toute cette histoire, parce que bon, on ne va pas pouvoir la raconter en peu de temps à la radio, ça dure pas longtemps. Je crois que le documentaire dure 55 minutes, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Combien de temps pour faire un documentaire pareil?
Ça a été assez long, entre le moment où en fait j'ai écrit pendant le confinement. Je me suis retrouvé, ce qui était d'ailleurs assez étonnant parce que c'était au moment où j'écrivais, c'était en plein assaut du Capitole, donc ça faisait tellement écho à l'histoire de Léon Lewis faisait complètement écho à ce qui se passait en temps réel. Donc depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, 2021-2023, 2-3 ans, quoi. Donc effectivement, c'est assez long. C'est un long processus. Il y a eu un gros travail sur des archives fait par Guillaume Bérard, qui est un documentaliste, il a fallu faire les animations, faire voilà beaucoup de recherches, travailler avec Steve Ross, donc cet historien qui a redécouvert Léon Lewis, et travailler avec lui, essayer de tirer une trame, et voilà, c'était effectivement c'était un travail compliqué et effectivement oui, toujours assez long. Oui.
Un mot sur la mort de Léon Lewis qui est décédé d'une crise cardiaque. Un peu simplement, un peu bêtement dans la rue. C'est une sacrée. On ne sait pas s'il était marié, s'il avait des enfants, s'il
avait. Il était marié, bien sûr. Il était marié, il avait des enfants. Bah, il meurt en fait. Il meurt sans qu'on, voilà, sans laisser de traces. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, le grand public n'a rien su de ce réseau d'hommes et de femmes qui l'a monté à partir de rien et surtout la menace qu'il a vu qu'il a vu un peu se constituer au fil des ans sur la démocratie et sur les États-Unis. Après coup, on sait, nous, ce qui s'est passé, mais lui, c'est ça qui est étonnant, c'est que lui ne le savait pas, et il avait pressenti ce danger-là. Et même après-guerre, il est resté attaché à la lutte contre les droits civiques. Donc voilà, c'était quelqu'un de très, très, très engagé, en fait, qui portait la démocratie au plus haut.
Qu'est-ce qu'on peut dire de Léon Lewis s'il fallait le résumer en deux mots? C'est difficile comme question, mais qu'est-ce que vous diriez de lui?
Bah, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était vraiment pour moi un lanceur d'alerte avant l'heure, quelqu'un de très engagé, qui n'avait pas peur de non seulement du danger que ça pouvait représenter, parce qu'il y avait un réel danger. Il ne faut pas oublier que les nazis projetaient d'assassiner une vingtaine de juifs, de patrons de studio, jusqu'à Charlie Chaplin. Mmh. Évidemment, Léon Lewis était numéro un sur cette liste. Donc il y avait un grand danger. Et puis quelqu'un qui a tout donné, en fait. Il a abandonné son travail d'avocat pendant des années. Il s'est ruiné pour tenter d'alerter encore et encore, pour éviter que les nazis puissent prendre pied aux États-Unis. On ne sait pas ce qu'il aurait pu advenir, mais sans doute quelque chose de terrible, ça aurait pu arriver, effectivement.
Voilà. Vous avez des projets prochainement en documentaire ou pas?
Alors j'aimerais bien adapter Léon Lewis en bande dessinée.
D'accord.
Mais c'est encore un autre travail qui est aussi très long, même si j'ai déjà une bonne base de dessin. Et puis sinon, oui, j'ai des projets aussi, toujours un peu dans ce... Pour l'instant, rien de très concret encore, hein, ça en est au stade de l'écriture, mais sur, effectivement, ce Los Angeles des années 30, que moi j'adore, hein, qui est un Los Angeles complètement fascinant. C'est le Los Angeles des films noirs, c'est les Los Angeles de Chandler, de Dashiell Hammett. Voilà, c'est la face sombre et complexe de la ville qui est bien plus complexe. Et encore une fois, ça le montre, hein, il y a une histoire qu'on l'imagine en tout cas.
On vous rappelle, dimanche 28 mai à 22h50 sur France 5, dans la Casse du siècle, Léon Lewis qui a vaincu les nazis à Hollywood. Un film écrit, réalisé et dessiné par Olivier Mirguet qui était notre invité. Je vous remercie et puis à très très bientôt peut-être. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.